Vous allez râler parce que je vais faire référence au patrimoine, mais c'est pas grave.
Je suis pas du tout une féministe encartée.
Donc j'en ai fait bondir pas mal, mais j'estime que j'ai rempli mon rôle dans ma vie, mais bon. Allez, on peut enregistrer.
C'est parti.
C'est dans le hameau de Marcevol, tout à côté de son magnifique prieuré, classé au patrimoine des monuments historiques, que je vais à la rencontre de Sabine Foyard. Elle revient sur le métier qu'elle a exercé avec passion et nous offre une base de réflexion à la question « Mais qu'est-ce que le matrimoine ?»
Est-ce que tu avais envie de partir sur cette notion de matrimoine ou tu...
Non, je voulais juste dire en préalable qu'en fait, du fait de mon métier d'architecte et que j'avais beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le patrimoine bâti et aussi des objets, et que j'ai passé ma vie à me demander ce que c'était que le patrimoine. Donc quand tu me poses question matrimoine... Je ne sais encore moins ce que c'est, mais on va essayer de le définir.
Alors, j'ai été un petit peu dans la fin des temps où il y avait très très peu de filles architectes. Ça a changé très vite après moi. Maintenant, il y en a à peu près la moitié, même peut-être plus de la moitié qui sont des femmes. Ceci dit, les femmes architectes de mon époque et même de peut-être 20 ans encore après... Travailler beaucoup dans des choses salariées, tu vois, pour des départements, pour une banque, pour... voilà. Elles ne montaient pas beaucoup leur agence personnelle libérale. Pour des raisons, je pense, tout simplement familiales. Quand tu rentres à 11h du soir chez toi et que t'as des gosses, c'est pas évident. Sauf si t'as un mec compréhensif ou quelqu'un d'autre à la maison. Donc je pense que c'est surtout ça qui a induit le fait qu'elles s'installaient pas en libérale. Après, il y en a eu qui se sont installés. Il y a même des agences où il n'y a que des femmes. Enfin bon, je ne parle pas de la période actuelle. Et pour moi, si je reviens à moi, je n'ai jamais eu le moindre problème. D'abord parce que j'aimais beaucoup le chantier, puisque j'avais commencé en fait par faire du chantier moi-même, au prieuré notamment, tu vois. Donc je m'y collais, je connaissais bien l'enchaînement des tâches, etc. quand j'ai commencé. Après, bon, il y a des corps de métier, je ne vais pas citer qui, mais il y en a qui sont plus machos que d'autres, donc il y avait toujours un petit sourire à la première réunion. Et après, je n'ai pas eu de problème parce que j'étais le chef de l'équipe, tu vois. Un architecte, tu es obligé de l'écouter. Donc, on l'écoute, que ce soit une femme ou un homme. Et après, bon, dès que j'ai eu un peu plus d'expérience, si tu fais bien ton boulot... Ça, c'est un autre sujet aussi que je ne peux pas développer, mais moi, j'adore le milieu du bâtiment, donc j'étais à l'aise. J'aime bien parler technique avec les gars et tout ça, tu vois. Par contre, il n'y avait quasiment pas. J'ai eu une femme peintre, j'ai eu peut-être deux entreprises. Quelquefois, la chef d'entreprise était une femme, par exemple, je pense à une maçonne dont le mari était mort. Elle était chef d'une assez grosse entreprise de maçonnerie, mais elle ne venait pas sur le chantier... Elle avait un chef de chantier qui s'occupait des chantiers, tu vois. Elle faisait plus la direction d'entreprise. Et les toutes petites entreprises, les femmes étaient au bureau et sur les chantiers, j'ai vraiment vu que des hommes. Et alors, il y a eu une période où il y en a pas mal qui se sont installées, mais c'est pareil, elles n'ont pas tenu le coup longtemps. C'était dans les années, je dirais, 90, par là, dans le coin. Hein. Il y a eu une formation aussi qui était, dont mon associé s'est occupé, qui s'appelait Femmes en bâtiment, qui a... former une vingtaine de femmes à des métiers artisanaux du bâtiment.
D'accord.
Il doit en rester deux qui bossent. Enfin bon, maintenant elles sont un peu âgées, mais il n'y en a pas eu beaucoup qui ont poursuivi longtemps, quoi. J'aime bien travailler avec des hommes. J'aime bien leur façon de gérer les problèmes, tout ça. Je suis à l'aise. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu de problème aussi, parce que sans doute qu'ils sont à l'aise avec moi aussi, enfin, il y a quelque chose qui passe facilement. C'est quand même plus simple quand tu ne mêles pas trop de considérations affectives. Quand tu veux être efficace, j'aime bien la manière dont les hommes ne mêlent plus leurs problématiques affectives ou leurs affects en général. Ce n'est pas forcément des problèmes, mais qu'ils ne mêlent plus leurs affects... au regard de l'efficacité, si tu veux. Bon, ça peut être l'émotion de la vie sur le chantier aussi, hein, parce que c'est sacré, c'est pas forcément la vie privée, ça peut être aussi l'émotion de la vie professionnelle. Et ce qui me rend parfois difficile le travail avec des femmes, c'est que j'aime bien, moi, qu'on aille vite au but et que, voilà, je trouve ça souvent, autant ce côté féminin, je l'adore dans des relations... sans but précis, mais quand on a un objectif, j'aime bien la façon des hommes d'y aller direct. Voilà.
J'ai eu mon diplôme d'architecte au début des années 70. Après, je suis venue habiter à Marcevol, où j'habite encore. Et je ne pensais pas y rester plus de quelques années. Je ne pensais pas arriver à exercer ici, parce que c'était une époque où il y avait très peu de boulot pour les architectes. Et dans le milieu rural, on ne s'intéressait pas du tout à ça. C'était des maîtres d'œuvre sans diplôme qui faisaient le bâti, en fait. Beaucoup. Et donc, par une série de circonstances et aussi d'évolutions sociétales, il s'est trouvé qu'on a eu du boulot et on s'est installé à deux femmes et un homme, un cabinet d'architecture à Marcevol. On s'est retrouvés au bout de quelques années seulement les deux femmes et on a duré 35 ans en travaillant surtout pour des collectivités, des petites collectivités locales. Et puis aussi dans le solaire, au début du solaire, c'est-à-dire dans les années 80, on a fait un certain nombre de maisons passives. On est resté un peu connecté avec ce réseau. D'ailleurs, je suis toujours à Conflans Énergie. Et j'ai travaillé sur soit des bâtiments reconnus comme patrimoine, soit des choses anciennes qui étaient des ruines, etc. Et qu'on a... qui deviennent du patrimoine au moment de leur réhabilitation, en fait. On les valorise, ça prend de la valeur sociétale pour les gens au moment où on dit « Ah, cette ruine, ça serait bien de la retaper. » Et brusquement, on la trouve belle, on la trouve intéressante et ça bascule côté patrimoine. Plus je vieillis, plus je me rends compte que dès que j'étais enfant, l'architecture m'intéressait et le patrimoine, curieusement. Parce que dans mes études, je n'étais pas du tout orientée sur le patrimoine, j'étais orientée sur le logement social, la ville, des choses totalement différentes. C'est le fait d'avoir voulu habiter ici qui a changé l'orientation. Il n'y avait personne qui avait ce genre de boulot dans ma famille. Mon père était militaire, donc j'avais des salariés autour de moi. Je n'avais pas du tout de gens... Donc non, j'ai pris un petit peu la tangente là. Pas vraiment, mais au niveau du choix professionnel, oui.
T'as innové.
Oui, je ne te dis pas vraiment parce que je me suis aperçue qu'il y a eu des recherches généalogiques dans ma famille. Et en fait... De très loin, il y avait, je ne sais pas quoi, des prévôts de ville, donc des gens qui étaient aussi dans l'aménagement, en fait, quand même, quelque part, en tant qu'élu. Il y avait des notaires, il y avait des gens comme ça. Donc, tu vois, je n'étais pas... des gens qui avaient travaillé en profession libérale, il y en avait. Mais vraiment beaucoup plus haut dans l'arbre généalogique, dont je n'avais pas connaissance.
Ouais.
Bon, c'est un tout autre sujet.
Ah, enfin, on fait des raccords.
Alors moi, le patrimoine tel que je le conçois, parce que par exemple le prieuré a été considéré comme du patrimoine, je pense par Mérimée qui l'a mis sur la liste des bâtiments historiques en 1830, par là, je n'ai pas l'année exacte, mais avant, ce n'était pas considéré comme du patrimoine. Ça n'apparaît nulle part dans les textes, tu vois, parce que ça a été abandonné en fait en 1500 et quelques, enfin abandonné, il y avait les prêtres de Vinça qui montaient de temps en temps. Donc il y a une partie de la population qui le considérait comme patrimoine, mais c'était même pas entretenu, tu vois. C'était... Pour moi, ce que c'est le patrimoine, c'est quelque chose d'ancien, soit un objet, soit un bâtiment, soit même un concept, par exemple la démocratie, enfin ça peut être n'importe quoi en fait. C'est quelque chose d'ancien, mais auquel aujourd'hui on accorde de la valeur.
D'accord.
Et il se peut très bien que demain on n'en accorde plus, et à ce moment-là, ça sera plus du patrimoine. Donc c'est très lié... D'une part à un aspect social et politique, et aussi aux valeurs qui circulent dans la société à un moment donné, quoi. Et justement là-dessus, par rapport au matrimoine, je pense qu'il y a un truc intéressant, c'est que... Enfin, pour moi, j'ai pensé tout de suite, le matrimoine, c'est ce qui est transmis par la mère, ou plus globalement par des femmes. À des hommes ou à des femmes, après ça dépend des circuits. Et en fait, les femmes, elles ont transmis... énormément de choses qui sont pas classifiées, pas valorisées, c'est-à-dire tout le savoir domestique, beaucoup de chansons, beaucoup d'histoires, justement. Et ce sont des choses qui reprennent actuellement de la valeur. Parce que moi, quand je vois des gamines qui recommencent à tricoter, ça me fait rigoler, parce que nous, on tricotait plus. Et en fait, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas un petit peu maintenant sur des tutos sur Internet, mais... Tu l'apprenais en famille. Moi, je sais coudre, j'ai appris en regardant ma mère. Elle ne m'a même pas appris, vraiment. J'ai regardé pendant des week-ends entiers qu'elle faisait des trucs. Et je sais coudre, tu vois, par exemple. Et tout ça, ça n'a pas eu longtemps de valeur économique. Si la crise arrive, ça en a une énorme, ces choses-là. Et si on veut créer un monde avec un autre... oui, une valeur moins... des rapports moins marchands entre les gens, un lien social moins fondé sur l'économie marchande, eh bien, il me semble que ce matrimoine-là, il va reprendre... déjà, il reprend du poil de la bête, mais il va reprendre de la valeur, même socialement, tu vois. Donc, c'est vraiment intéressant d'en parler. Et j'ai regardé un peu sur Internet, en fait, ce qu'ils appellent matrimoine, c'est vraiment matrimoine culturel. Mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas seulement des femmes écrivains ou je sais pas quoi, pilotes de chasse. C'est vraiment ce qui est transmis par les femmes. C'est énorme. En fait, c'est la survie de la société, d'une certaine façon, quelque part. C'est la nourriture. C'est, dans certaines sociétés, le toit. Par exemple, les Touaregs, où c'est la femme qui est propriétaire... des troupeaux de chèvres, les chameaux, je ne sais pas, mais les chèvres, je suis sûre, et des cases ou des tentes.
D'accord.
Quand elles en ont marre de leur homme, elles le foutent dehors et elles gardent tout le matos, le lit, les meubles, tout.
Okay.
Et donc elles assurent en fait la survie de la société quelque part, hein, parce qu'il faut, c'est le minimum pour vivre, c'est quelques chèvres et un endroit pour s'abriter. Donc voilà, j'avais envie d'insister sur ce sens du matrimoine parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. J'avais une anecdote en fait, enfin j'ai regardé un peu, donc j'ai une autre vie que ma vie professionnelle, comme tout le monde, et je m'intéresse au chant traditionnel de transmission orale depuis très longtemps, avec ce groupe Ostinata de chanteuses qu'on chante ensemble depuis 20 ans. Et j'ai trouvé un exemple assez rigolo, la chanson Bella Ciao, dont on peut considérer qu'elle fait partie du patrimoine. L'autre jour, on a chanté dans une petite école au Bavernais. Il y avait un gamin qui venait de Géorgie ou de Turquie. Il la connaissait, tu vois. C'était incroyable. Donc, c'est au moins un patrimoine européen. Et je pense aux États-Unis, ils la connaissent aussi par les Italiens. Et en fait, au départ, c'est une chanson de travailleuse de la plaine du Pô qui repiquait le riz.
Ah, tiens.
Donc, c'était du matrimoine pur et simple. En plus, c'était que des équipes de femmes. Il y avait le contremaître et les repiqueuses, c'était des saisonnières qui venaient de la montagne, qui travaillaient là pendant au moins 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, et qui repartaient après.
Les pieds dans l'eau.
Et donc cette chanson te raconte ça, on est fatigué, le chef nous donne des ordres, et voilà. Et elle a été reprise donc au moment de la guerre par les partisans italiens, par les résistants. Et elle est connue dans le monde entier dans la version des résistants, en fait. Presque personne ne connaît la version initiale.
Original.
Donc là, ça passe du matrimoine au patrimoine, directement. Un patrimoine presque mondial, enfin, occidental en tout cas. Donc je trouvais que c'était un exemple intéressant.
Tout à fait. Eh bien, je te remercie beaucoup.
Je t'en prie.